Et les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Maintenant qu'un accord est trouvé sur le Brexit, le Premier ministre Boris Johnson doit convaincre le Parlement britannique de l'adopter. Nous irons à Bruxelles et Londres.
La communauté internationale a aussi les yeux rivés sur la Turquie. Elle a accepté hier de suspendre son offensive en Syrie, mais sous conditions.
Le prestataire du géant casino d'Angers ne pourra plus employer ses salariés le dimanche après-midi dans cet hypermarché. Nous reviendrons sur cette décision de justice. Et après ce journal, la question du jour, Guillaume.
On va revenir sur le Brexit, Margot. Que comprend le nouvel accord ? A-t-il une chance de ne pas être ratifié ? On en parle avec Catherine Mathieu, elle est économiste à l'OFCE.
Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont donné leur feu vert à un accord sur le Brexit hier, mais il ne faut pas se réjouir trop vite. Le texte sur le divorce du Royaume-Uni et de l'UE doit encore être accepté par le Parlement britannique. L'ex-première ministre Theresa May n'y était pas parvenue, ce qui n'a pas empêché le président du Conseil européen Donald Tusk de se sentir soulagé. « Nous sommes très proches de la fin du processus », a-t-il déclaré. Pour en arriver là, il a fallu faire des concessions, Marie-Pierre Véraud.
Si l'essentiel de l'accord déjà négocié par Theresa May demeure, les lignes ont beaucoup bougé sur deux points de blocage, le statut de l'Irlande et la déclaration politique qui définit la relation future entre l'Union et le Royaume-Uni. Et là-dessus, les Européens ont dû accepter de restreindre le champ des possibles. Ce sera au mieux un accord de libre-échange approfondi. En échange, Boris Johnson s'engage à ne pas faire de dumping fiscal, environnemental ou social aux portes de l'Europe. Mais il s'aligne sur les règles actuelles et pas forcément futures. Là encore, les 27 ont lâché un peu. Sur l'Irlande du Nord, c'est le Premier ministre britannique qui a fait une concession de taille. Il accepte un statut particulier pour la province, statut hybride. L'Irlande du Nord restera certes, comme il le souhaitait, partie du territoire douanier britannique, droit de douane, TVA, tout en restant aligné sur les normes européennes pour les marchandises en matière sanitaire, par exemple. Afin d'éviter le retour d'une frontière terrestre dure en Irlande, ligne rouge européenne, Londres a encore cédé. Les contrôles douaniers auront lieu entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Autant de concessions qui irritent les unionistes nord-irlandais. Les Européens ont eux accepté de déléguer aux Britanniques les contrôles douaniers et la perception des taxes. Ils concèdent aussi, et ce n'est pas rien, une porte de sortie. Au bout de 4 ans, l'Assemblée nord-irlandaise pourra par un vote mettre fin à l'accord.
On le disait, ce n'est pas gagné. Les parlementaires britanniques se réuniront demain pour une séance exceptionnelle à la Chambre des communes. Il reste donc au Premier ministre conservateur Boris Johnson une journée pour s'assurer le soutien de ses troupes. Des troupes divisées par le passé, mais qui déjà commencent à se rassembler. À Londres, Antoine Gignot.
Le meilleur symbole, c'est le retour hier soir sur les plateaux de télévision d'une figure emblématique des conservateurs. Nicholas Soames, petit-fils de Churchill, exclu du parti par Boris Johnson au mois de septembre avec une vingtaine d'autres députés, annonce son ralliement et son soutien au Premier ministre.
Il a négocié avec l'Union européenne, c'est clair. Et il a réussi à faire en une semaine quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire l'an dernier. Alors je suis vraiment très content. Si je me suis disputé avec le Premier ministre, c'est parce que je ne voulais pas de sortie sans accord. Donc puisque nous avons un accord, je vais le soutenir avec beaucoup de mes collègues, parce que c'est ce que nous voulons.
Pas de miracle, en revanche, du côté des conservateurs europhiles qui espèrent toujours annuler le Brexit. Dominic Grieve et Anna Soubry, qui ont quitté leur groupe parlementaire, expliquent qu'ils voteront aux côtés de l'opposition pour bloquer la sortie de l'Union européenne.
Il faut qu'on s'assure d'avoir un report du Brexit. Et ensuite, nous demanderons un nouveau référendum. Mais nous devons d'abord, avant toute chose, écarter l'accord effroyable que propose Boris Johnson.
Même réaction chez les unionistes nord-irlandais qui dénoncent un accord fait dans la précipitation et voteront contre, mais leur voix pourrait être compensée par celle de plusieurs travaillistes fatigués des débats et qui se disent prêts à valider, aux côtés de la majorité, le texte négocié avec Bruxelles.
L'autre accord trouvé hier concerne la Turquie. Après avoir rencontré le vice-président américain Mike Pence, Recep Tayyip Erdogan a accepté de suspendre son offensive contre les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. Le président turc y mettra fin définitivement si les forces kurdes s'en retirent sous 5 jours. C'est pourquoi il appelle à ne pas crier victoire tout de suite à Nandlower.
C'est un cessez-le-feu provisoire et conditionnel. La Turquie va suspendre son opération pour laisser le temps, 5 jours, aux combattants kurdes de se retirer de la zone dite de sécurité qu'elle réclame le long de sa frontière avec la Syrie. Le vice-président américain Mike Pence a livré les premiers détails.
Notre administration est déjà en contact avec les forces de défense syriennes. Nous avons commencé à faciliter leur retrait d'une zone de sécurité d'environ 32 km de profondeur à la frontière turco-syrienne. South of the
Turkish border in Syria. La première confirmation côté turc est venue du chef de la diplomatie. Mevlüt Çavuşoğlu a précisé que la zone de sécurité serait sous le contrôle des forces armées turques et que les combattants kurdes abandonneraient leurs armes lourdes. Mais le ministre turc est aussi resté prudent.
Nous n'arrêtons pas l'opération, nous la suspendons. Nous n'arrêtons l'offensive que lorsque ces éléments terroristes auront entièrement quitté la région.
Les États-Unis ont obtenu ce qu'ils voulaient, l'arrêt de l'opération. La Turquie a obtenu ce qu'elle voulait, une zone de sécurité. Dans 5 jours, mardi prochain, elle décidera ou non de reprendre son offensive, soit précisément le jour où Recep Tayyip Erdogan doit se rendre à Sochi pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine.
La correspondance d'Anne Handlauer à Istanbul. Cette offensive turque a fait près de 500 morts, dont une centaine de civils en seulement 10 jours, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui ajoute qu'elle a aussi provoqué le déplacement de 300 000 personnes. C'était attendu, les États-Unis viennent d'imposer pour 7,5 milliards de dollars de droits de douane supplémentaires sur des produits européens. Les avions d'Airbus, les vins français et les whiskies écossais sont notamment concernés. Déjà 4 jours de manifestations en Catalogne depuis la condamnation des dirigeants indépendantistes par la justice espagnole pour leur rôle dans la tentative de sécession en 2017. La mobilisation ne devrait pas faiblir. Aujourd'hui, jour de grève générale, des manifestants de toute la région doivent se retrouver à la capitale catalane, Barcelone, pour un grand rassemblement. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30.
7h06 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Margot Delpierre. La justice interdit l'emploi de prestataires extérieurs le dimanche après-midi au géant casino d'Angers.
La décision est tombée hier. Depuis la fin août, cet hypermarché était ouvert après 13 heures. Les clients réglaient aux caisses automatiques en présence de salariés d'un prestataire extérieur pour les orienter et les aider. Un contournement de la loi sur le repos dominical condamné par le juge des référés. Malgré tout, l'enseigne maintient son ouverture le dimanche après-midi. Samuel Monod.
Il n'y aura plus d'employés dans le magasin, juste des caisses automatiques. Le casino d'Angers souhaite cependant faire de la pédagogie. Des affichettes seront placardées dans l'établissement pour guider le client au moment de payer. Une démarche insuffisante pour le syndicat CFDT Maine-et-Loire et son secrétaire général Antoine Lelarge.
Nous, ce qu'on voit, c'est tous les dimanches après-midi, des clients qui, malgré le fait qu'il y ait des animatrices de caisse jusque-là, ont des difficultés, voire s'énervent parce qu'ils ne sont pas assez accompagnés, parce qu'il y a des petits soucis techniques sur lesquels c'est compliqué d'y répondre. On voit bien que c'est un modèle qui ne tient pas d'ouvrir sans personnel de caisse sur une si grande surface.
Renoncer à ouvrir après 13 heures, c'est une solution que le magasin ne veut pas envisager. Il faut dire que l'enjeu est important. Le directeur de l'établissement prévoyait fin août un gain de 5% sur son chiffre d'affaires grâce à cette ouverture. Et plus largement, selon une étude de l'Institut Nielsen, les ventes dominicales ont représenté 41% de la croissance du secteur de la grande distribution depuis le début de l'année.
Samuel Monod. Un 60e attentat a été déjoué en France depuis 2013 et cela juste avant la tuerie à la préfecture de police de Paris il y a 2 semaines. Il s'agissait d'un projet de détournement d'avion par une personne qui voulait s'inspirer du 11 septembre 2001 aux États-Unis, a expliqué hier soir le ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner était l'invité de France 2. Un individu a été mis en examen et incarcéré pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Le chef du gouvernement, Édouard Philippe, était lui dans le Jura à Lons-le-Saunier. Il a débattu devant des familles et des parents d'élèves de la réforme des retraites. Il y a une marge de négociation. Beaucoup de questions sont ouvertes, a assuré le Premier ministre. Une première journée de grève interprofessionnelle est prévue le 5 décembre. Il est clair que la France se prépare à construire de nouvelles centrales nucléaires. C'est ce qu'a déclaré le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, dans un entretien au journal Le Monde, publié hier. Il estime que la construction de 6 réacteurs EPR serait un choix efficace et semble valider l'hypothèse de travail du gouvernement qui avait demandé à l'électricien d'évaluer l'état de la filière. On connaît le Sidaction, le Téléthon, un peu moins le Psychodon. L'association du même nom organise une conférence aujourd'hui à Paris dans les locaux de Google France sur les troubles ou maladies psychiques, mais aussi les addictions aux jeux vidéo. Le but, déconstruire les clichés et éviter les retards de diagnostic, mais aussi obtenir un engagement plus fort de la part de géants du numérique, comme Google, dans la prévention contre ces risques d'addiction, Vianney Smiarovski.
Le Psychodon part d'un constat. Beaucoup de familles s'interrogent sur le lien entre les jeux vidéo, la potentialité de leur addiction et le développement des maladies psychiques. Pour Didier Meyran, le fondateur de l'association, les causes sont multifactorielles et il est important de déconstruire certains fantasmes.
Il faut absolument se battre contre les clichés, les préjugés. Il y a des vrais enjeux dans les jeux vidéo aussi. L'addiction est un danger, mais il ne faut pas non plus renverser le monde dans lequel nous vivons. Le numérique, les jeux vidéo sont aussi des potentialités même de soins, ils sont aussi des potentialités éducatives très larges. Sur 100 jeunes qui pratiquent les jeux vidéo, seulement 5% deviennent addicts et seulement donc 5% sont en risque de troubles ou de maladies psychiques. C'est un risque sérieux, mais c'est un risque qui est quand même limité.
Les 15-25 ans sont donc les principaux concernés par les addictions numériques, avec un risque d'une perte de lien social, de confondre monde virtuel et monde réel. Et ce n'est pas par hasard si Psychodon a choisi de faire sa conférence sur le sujet chez Google. Didier Meyran aimerait que les géants du numérique s'engagent davantage.
Réfléchir à des moyens pour être encore plus efficace dans la prévention, surtout il y a des tas de choses qui sont faites en matière d'autorisation parentale, de pare-feu, etc. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire pour qu'ils participent là où ils sont à prendre part à la sensibilisation sur les risques que représentent certaines pratiques vidéo numériques ou réseaux sociaux pour les jeunes.
Psychodon attend aussi un engagement plus important de la part de l'État. La nomination d'un délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie en début d'année est déjà un signal encourageant, estime l'association.
L'association Psychodon, c'est donc un cycle de conférences et une fois par an, une soirée pour récolter des dons sur le modèle du Téléthon. 20 millions d'euros pour un tableau de Nicolas de Staël, c'est un record. L'œuvre monumentale Parc des Princes a été vendue aux enchères à Paris hier. Elle date de 1952 et elle est donc signée Nicolas de Staël, peintre français d'origine russe. Il l'a réalisée après avoir assisté à un match de foot entre la France et la Suède au Parc des Princes, dans la capitale. Météo France prévoit de la pluie encore aujourd'hui sur une grande partie du pays. Les averses seront plus fréquentes et localement orageuses dans le nord et jusqu'au centre. Seule la Corse devrait échapper à la grisaille. Comptez 9 à 15 degrés ce matin, 16 à 17 près de la Méditerranée. Cet après-midi, il fera 14 à Lille, 15 degrés à Paris, 17 à Strasbourg, 18 à Bordeaux et 22 à Marseille, Guillaume.
Merci Margot Delpierre.